bloquée à la frontière, notamment la frontière entre l'Égypte et Gaza, que l'armée israélienne bloque et ne laisse pas entrer. Et vous voyez bien les annonces de ce soir où Israël fait semblant de vouloir à nouveau laisser entrer de l'aide humanitaire, ça prouve bien qu'ils étaient en train de la bloquer. Et l'armée israélienne a communiqué sur l'arrestation du bateau en disant il tentait de briser le blocus de Gaza. Donc l'armée assume elle-même mettre en place un blocus sur la bande de Gaza. C'est absolument illégal. Et ça, évidemment, que le gouvernement français a les moyens de faire pression pour faire en sorte que l'aide humanitaire d'abord puisse arriver à Gaza.
Est-ce que, à ce stade, vous avez déjà des nouvelles des occupants du navire, et notamment d'Emma Fourreau? Est-ce qu'il faut s'attendre au même dénouement que pour l'eurodéputée Rima Hassan le mois dernier?
Absolument, on n'a aucune nouvelle. On n'a absolument aucune nouvelle. De fait, si on suit le même schéma, le bateau devrait être transporté jusqu'à un port en Israël. Mais on n'en a absolument aucune certitude. Il faut quand même rappeler que c'était le 37e bateau de la flottille de la Liberté. C'était le deuxième cette année, mais c'était le 37e depuis la création de la flottille en 2010, après le début du blocus de Gaza en 2006. Il y a des bateaux pour lesquels ça s'est beaucoup moins bien passé. Il y a des bateaux sur lesquels il y a eu des morts. Il y a des bateaux sur lesquels l'équipage a vraiment été maltraité. Donc on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé avec le Madeleine, et c'est pourquoi il faut demander aux citoyens, aux citoyennes, absolument d'interpeller leur gouvernement, en l'occurrence pour nous le gouvernement français, mais les gouvernements des 10 pays dont les ressortissants du bateau étaient membres, puisque voilà, on n'a aucune certitude sur leur état de santé, sur la manière dont ils sont traités actuellement par les soldats israéliens. Là, les images que vous diffusez actuellement de soldats surarmés sur le bateau laissent à craindre des traitements assez dégradants. Donc effectivement, on demande à avoir des nouvelles au plus vite.
Voilà, c'était une rediffusion, un extrait d'une émission de CivipaxM de début du mois d'août. Nous allons donner place à Jazz Lib. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste.
Chers auditeurs, bonsoir, c'est Jazz Live, c'est Radio Libertaire, c'est sur 89.4 FM Paris et sur la norme numérique DAB+. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur la grille des programmes de la radio sur radiolibertaire.net. N'oubliez pas de télécharger la souscription pour nous soutenir, nous avons besoin de votre soutien. Et j'en profite pour nous excuser auprès de vous, chers auditeurs, des ennuis techniques qui ont un petit peu émaillé cette période de maintenance de la technique, puisque le streaming est en panne depuis un petit moment, il devrait être réparé d'ici là. Donc voilà, toutes nos excuses. En revanche, le podcast est toujours disponible pendant 12 mois après la fin de la diffusion. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger. N'oubliez pas également de consulter ma page Facebook Yves Jazz Lib, sur laquelle je mets toujours l'ensemble des informations, la playlist et les photos des albums. Voilà. Alors ce soir, dernier épisode de Feuilleton de l'été, un été avec Miles Davis évidemment, dans cette période charnière de 1962 à 1964, sur lequel Miles Davis et son quintet va chercher des nouveaux musiciens pour pouvoir aboutir à son projet qu'il a dans la tête à ce moment-là. Je vais donc vous proposer deux concerts du quintet avec encore un musicien intermédiaire qui est apparu dans le quintet, puisque George Coleman, que nous avions écouté la dernière fois, va pareil quitter le quintet, et puis Miles Davis va en utiliser un autre saxophoniste ténor qui est multi-instrumentiste, qui s'appelle Sam Rivers. Alors, Sam Rivers, finalement, va rester très peu de temps. Il avait été sollicité par Tony Williams, car Sam Rivers était le mentor de Tony Williams, qui va le faire venir dans le quintet. Archie Shepp avait été plus ou moins pressenti, mais visiblement, le côté coltranien ne convenait plus tout à fait à Miles. Il avait vraiment autre chose dans la tête, il voulait Wayne Shorter. D'ailleurs, Coltrane avait préempter Wayne Shorter pour son remplacement, mais Wayne était pris dans l'orchestre de Art Blakey et des Messengers. Et là, pour l'anecdote, Miles, quand Wayne Shorter a quitté les Jazz Messengers, il voulait un peu se reposer, et Miles l'a sollicité pour qu'il vienne tout de suite, et finalement il n'a pas eu beaucoup de repos. Alors je vais vous présenter le concert qui a été enregistré au Japon avec Sam Rivers, mais avant je vais vous donner quelques informations sur ce musicien tout à fait étonnant. Alors déjà, il est un petit peu plus âgé que Miles Davis. Il est né le 25 septembre de 1923 et il est mort le 26 décembre 2011. Il jouait du ténor, également de la flûte, de la clarinette basse, également du piano et de l'harmonica. Et il a été déjà très actif dans les années 1950. Juste pour vous donner une autre information que j'ai oubliée, il est né à El Reno, en Oklahoma. Voilà. Son père était musicien de gospel et il chantait avec le Fisk Jubilee Singers et le Silverstone Quartet, ce qui fait que Sam Rivers a été très très vite initié, exposé à la musique tout très très tôt. Son grand-père, Marshall W. Taylor, était un leader religieux, dans le Kentucky, et il est resté en Californie dans les années 40 pour ensuite intégrer la Navy. Il a commencé à jouer de manière semi-professionnelle avec le chanteur de blues Jimmy Witherspoon. Et ensuite, il est parti en 1947 à Boston, où il a étudié au conservatoire de Boston avec Alan Ovanes. Il a joué avec énormément de monde, notamment avec Quincy Jones quand même, Herb Pomeroy, Tad Dameron. En 59, il va commencer à jouer avec Tony Williams. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il était le mentor de Tony Williams. Donc, il a fait partie très très brièvement, parce qu'il a été très très vite remercié. Il a fait juste cette tournée au Japon en 1964, qui est intitulée sous le titre Miles à Tokyo, qui a été enregistrée, donc, que nous allons écouter tout à l'heure, le 14 juillet, au Koshnenkin Hall, pardon, excusez-moi la prononciation japonaise, mais totalement étrangère. Voilà, alors Sam Rivers a beaucoup joué pour la marque Blue Note, qui était vraiment la marque typique de jazz des années 50-60, et il a fait beaucoup d'albums, notamment avec Jackie Bayard, avec Herbie Hancock, avec Andrew Hill, Larry Young et évidemment Tony Williams. Mais il a commencé au niveau, je dirais, comme beaucoup de musiciens de l'époque, sur le bebop, mais ensuite il a été très très vite un adepte du free jazz. Moi je sais que je l'avais vu avec Barry H. Schulz et Dave Holland, et puis avec d'autres, voilà. Et donc il a une approche assez libertaire du jazz qui, on va l'entendre, est tout à fait passionnante, mais qui visiblement ne plaisait pas complètement à Miles à ce moment-là. Alors il va également composer beaucoup, notamment cette très belle ballade Béatrice, qui était sa femme, et il a également participé à des jam sessions avec Joe Anderson, Stan Getz. Alors ensuite, durant les années 70, il y a ce qu'on appelle la période des lofts, c'est-à-dire que beaucoup vont récupérer des endroits inhabités, ce qu'on appelle des lofts, hein, donc vous connaissez tous ça, dans lesquels ils vont répéter, faire des concerts, c'est une espèce de vie un peu sauvage comme ça, sur laquelle beaucoup de musiciens vont fréquenter ces lofts, et notamment le studio Reeve B, Rivers Beatrice, à Bond Street, dans le bas de Manhattan. Il va également recruter Clifford Fenton, qui est un tromboniste. Il va donc travailler avec Dave Holland, comme je le disais précédemment, sur notamment ce très beau disque qui s'appelle Conference of the Birds, avec Barry H. Schulz à la batterie, et voilà, c'était absolument génial. Au début des années 90, il va partir avec sa femme en Floride pour travailler en orchestre, pour faire des compositions d'orchestre. Et il va travailler avec le bassiste Doug Matthews, Anthony Cole à la batterie. Et à partir de 96 jusqu'en 98, il va tourner pour trois projets, pour le label Natto, qui est un label qui a beaucoup travaillé avec l'avant-garde, notamment avec le pianiste Tony Aimas. D'ailleurs, il y a un très beau documentaire, je ne sais pas si on le retrouve sur la toile à la télé avec Tony Haimas, et où ils ont fait beaucoup de duos. Tony Haimas n'a pas du tout, qui est issu de musique classique, a du mal un petit peu à comprendre comment fonctionnent les grilles d'accords. Enfin bon, voilà, assez intéressant. Il a enregistré plus de 70 albums, dont 35, a priori 35 sous son nom, et à peu près autant, voire un petit peu plus, en tant que co-leader ou en tant que sideman. Je vais quand même vous donner les artistes avec qui il a travaillé, ce qui est assez intéressant. Donc, il a beaucoup travaillé avec Dave Holland et Barry Atschul. Il a travaillé avec James Newton, le flûtiste, excellent. Il a travaillé avec des musiciens européens, dont Alexander von Slippenbach, Noël Achoké en France, Julian Trister, le tromboniste qui a joué beaucoup avec Herbie Hancock. Il a fait également des disques avec Jacques Tolo. Il a également enregistré avec Tony Williams, avec Reggie Workman, le contrebassiste qui a joué aussi avec Coltrane. Il a avec Steve Bernstein, évidemment avec Miles, un disque, pas beaucoup. Andrew Hill, Bobby Etcherson, John Lee Hooker, le bluesman, voilà, donc Jason Moran pour les derniers, Don Pullen également, et Cecil Taylor et Larry Young. Et donc, voilà, c'est quand même un musicien important, mais voilà, pour ce qui est de sa participation avec Miles Davis, elle fut plutôt météorique. Il n'a pas duré. Bon, je ne pourrais pas dire pourquoi. Et ensuite, évidemment, enfin, le Graal arrive avec Wayne Shorter. Mais n'allons pas trop vite. Nous allons donc maintenant écouter ce concert enregistré au Japon avec une présentation de Teruo Izono, avec dans l'ordre d'apparition le thème If I Were a Bell, My Funny Valentine, So What, évidemment, Walking All of You et Go-Go, le thème dont je vous parlais jeudi dernier. Alors il faut savoir que pendant toute cette période, hormis après, y compris après le départ de Victor Feldman, quasiment la thématique sera toujours la même tout au long de ses concerts. Il faut bien comprendre que c'est quasiment un laboratoire d'expérience musicale et ils vont peaufiner au fur et à mesure l'ensemble des thèmes. Et vous allez voir dans ce concert que Sam Rivers ne démérite absolument pas. Et voilà, c'est il y a des moments où il va vraiment partir dans, et on sent même d'ailleurs d'une certaine manière qu'il se restreint un peu. D'ailleurs, dans le texte de pochette de ce coffret que je vous recommande, Miles disait qu'ils avaient un tout petit peu essayé de, comment dire, de mettre pour le public japonais quelque chose d'un peu moins violent que pour le public américain ou européen. Voilà, donc c'est parti.
On the tenor saxophone we have from Boston, Massachusetts, Sam Rivers. Sam Rivers on tenor. Sam Rivers on drums. Tony Williams, Tony. At the bass, Ron Carter. Mr. Herbie Hancock at the piano, Herbie Hancock. Further present, Miles Davis Quintet, Miles Davis. Thank you.
Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Mm-hmm.